Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Mais qu'il est nul ce gameplay, le level design aussi, et que dire des graphismes, de la profondeur de champ, de ces textures qui ne changent jamais. Et je ne parle même pas de la sensation de liberté, complètement absente. Et c'est répétitif, mais répétitif. Franchement, j'ai jamais joué à un survival aussi nul. C'est donc pour la première fois une émission enregistrée à distance qu'on vous propose, et avant tout quand même, parce que je risque d'oublier et donc je préfère faire les remerciements en premier lieu, je dois remercier Patrick Béja, que vous connaissez sans doute, qui réalise depuis une quinzaine d'années ses excellents podcasts comme le Rendez-vous Jeu ou le Rendez-vous Tech et plein d'autres, et dans ces conditions d'enregistrement à distance il le fait, et donc il m'a vraiment aidé à mettre en place ce Silence on Joue édition confinée en prenant un peu de son temps pour me montrer comment lui, il travaille. Et donc, un grand merci à Patrick Béja. Mais c'est donc l'édition 1 de Silence on Joue en mode confiné. Il y en aura sans doute d'autres, en tout cas si cet enregistrement se passe bien et si cette émission voit le jour. Hein. On va dire que si vous l'écoutez en ce moment, c'est qu'elle a vu le jour, c'est que ça s'est bien passé. Donc, au programme de cette semaine, on va parler évidemment du jeu indispensable en cette période, c'est bien sûr Animal Crossing New Horizons, et puis peut-être un jeu moins indispensable en cette période.
Oh enfin, non, attention. Enfin, attention à tes mots, Erwan, attention.
Ça dépend.
Laisse bien tes mots.
Laisse-moi terminer. Ça dépend pour qui. Ça s'appelle voilà. Doom Eternal, bien sûr. Et puis on terminera l'émission avec peut-être une petite sélection de jeux qu'on a trouvé utile pendant cette période de confinement. Et comme c'est la tradition, je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Alors, je vais... Et une invitée surprise, une guest star.
vous avez pas trop non plus.
Ah bah attends, il faut. Mais je vais commencer par les chroniqueurs. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Marius Chapuis, bonjour Marius.
Salut tout le monde.
Franz Durupt, salut Franz.
Bonjour Erwan.
Et donc notre invité surprise, ça me fait trop plaisir, Camille Suard de jeuxvideo.com. Bonjour Camille.
Coucou. Merci, ça me fait plaisir à moi aussi, écoute.
Ouais, c'est super. Donc journaliste à jeuxvideo.com, et en plus, tu viens parce que tu as écrit la critique de Animal Crossing sur jeuxvideo.com. Vous pouvez le retrouver sur le site, évidemment. On va commencer, parce que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on va perdre les bonnes habitudes, avec un petit tour par l'actualité des jeux vidéo. On va peut-être pas passer... Ah oui, tiens, on va quand même faire un petit tour de table quand même, parce que pour donner des nouvelles, comment ça se passe de votre côté au niveau du confinement. On va commencer par toi, Patrick. Comment ça se passe? Tout va bien?
Ça marche. Écoute, un peu comme tu disais tout à l'heure, des textures très décevantes, un côté un jour sans fin continuel, mais j'ai envie de dire, tant que la santé tient le coup, il faut pas se plaindre, il faut relativiser. Peut-être un rapport un peu étrange avec le jeu vidéo. On en parlera peut-être tout à l'heure hein, avec les différents titres qu'on a eu entre les mains. Moi, il m'a fallu un peu de temps pour rebrancher une console. J'ai eu un petit moment où j'avais vraiment du mal, tu sais, à faire cette déconnexion pour se sentir bien dans un jeu vidéo. Il faut se sentir bien pour avoir envie de jouer aussi. Enfin, moi, ça passe par là. Et il m'a vraiment fallu quelques temps pour me réapproprier le fait d'allumer une console, de lancer un jeu. Ça revient, mais c'est vrai que j'ai eu une passe où vraiment j'avais du mal, tu sais, à faire l'abstraction du quotidien aujourd'hui, quoi, de ce qui se passe autour de nous, des news qui sont terrifiantes, toutes plus terrifiantes les unes que les autres au fil des jours. Et j'avoue qu'il m'a vraiment fallu un petit moment pour et finalement enregistrer aujourd'hui m'a fait le plus grand bien parce que j'ai relancé des jeux pour en parler, etc. Et voilà, en tout cas, ça n'a pas été évident pour moi. Il a vraiment fallu que je. Mais ça y est, puis d'où m'est arrivé. Donc voilà.
Marius, comment ça va?
Ça va. Moi, j'ai pas eu besoin pur, complète en tout cas. J'ai eu surtout un gros besoin de monde ouvert. Ouais. J'en ai profité pour finir la première semaine le Odyssée d'Assassin's Creed. Il y a une espèce de répétitivité qui fonctionne assez bien. Ça fait du bien d'avoir des décors et puis d'avoir des missions très claires et un peu con-con. Donc ça m'a fait du bien. En revanche, le cut est arrivé plus tard sur le lancement de Doom on en reparlera, mais moi Doom plus confinement, ça marche pas du tout, trop fort, trop hystérique pour moi.
Franz, comment ça se passe?
Moi ça va, la première semaine de toute façon j'ai pas trop eu le temps de m'ennuyer vu qu'il y avait pas mal de boulot sur le site Alibé, voilà. Mais là c'est vrai que je suis en semaine de congé là, et en fait j'y prends plutôt goût, c'est pas mal. Je mate un film toutes les nuits, je joue à la console le reste de la journée, je suis bien, quoi, ça va. Franchement, j'apprécie plutôt.
T'as des petits yeux.
Camille, tout va bien?
Tout va bien, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison, donc ça c'est bien. Et je joue beaucoup à Animal Crossing, forcément. Et je me suis lancée dans Mass Effect.
Ah, bonne idée.
Lequel, le premier
fois, le premier, qui est sur le Xbox Game Pass. Je me suis dit, tiens, ça fait des années que je me dis, enfin que j'entends toujours, ah mais faut que tu fasses Mass Effect, c'est incroyable, machin. Et du coup, je me suis lancée. J'ai pas fait grand chose pour le moment. Et c'est bien, en fait, j'avais envie de m'évader. Du coup, je me suis confinée dans l'espace. C'est encore plus. Là, c'est le level du dessus, quoi.
Ah, c'est vrai qu'en plus, le premier, il a de l'ampleur. Il a une classe dans le premier assez. Classe, c'est un beau jeu, quoi.
Il faut quand même arriver vite aux deux. Hein. C'est...
Ouais.
Oh non, le premier est vraiment chouette.
Le premier, il avait vraiment un truc.
Sur RPG, qui est super.
Donc voilà. Puis sinon, j'essaye de lire, mais j'ai du mal à lire en ce moment.
C'est
un peu triste. Et je suis en manque de liens sociaux aussi. J'en ai marre d'être enfermé.
C'est vrai qu'on prend un temps fou à lire une page. C'est plus long, mais c'est pareil. J'ai aussi du mal à me concentrer sur la lecture. C'est idiot, mais.
Écoutez, on va commencer par un peu d'actualité du jeu vidéo pour le coup, parce que le reste de l'actualité est assez monothématique pour le coup. Côté jeu vidéo, Patrick, toi, t'avais un petit truc, pas mal de trucs Nintendo.
Effectivement, pas mal d'actu. Alors, ça date déjà de quelques semaines, mais bon, je crois que on a une émission qui s'est pas faite. Donc, c'était ce rapprochement, moi, qui m'a fait rêver pendant des nuits, lorsque les rumeurs se sont développées d'un rapprochement entre Lego et Nintendo, deux marques évidemment essentielles. Et puis le match des deux, moi, ça m'a fait, j'ai rêvé à plein de choses parce que je me disais, est-ce qu'ils vont pas nous faire une sorte de Nintendo Labo hybride avec des briques ou une sorte de... je rêvais un mariage Nintendo Labo et Lego Dimension qui malheureusement nous a quittés depuis un petit moment. Et je rêvais à plein... Moi, j'ai toujours été fasciné par, ce jeu vidéo un peu augmenté avec des choses qui sortent de l'écran et puis des... Bon, alors finalement, l'annonce est arrivée. Donc finalement, c'est une gamme de jeux jouets Lego, donc sous licence Nintendo. Comme le présente le constructeur lui-même, ce n'est ni un jeu vidéo, ni un jeu de construction Lego traditionnel. Donc, on est sur un produit hybride avec une technologie spéciale, a priori développée par Nintendo et Lego ensemble, qui consiste en une figurine Mario interactive qui collectionne des pièces physiques de briques Lego. Bon, bref, on reste sur un set de, il y a plusieurs sets, plusieurs kits Lego qui vont sortir a priori, donc labellisés autour de ce personnage de Mario et de licence Nintendo. Bof, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de plus hybride et plus jeu vidéo en fait. Donc ça va rester du jouet et bon, voilà, sans plus quoi. Mais bon, on va quand même.
Juste un détail, c'est que pour créer des niveaux de Mario en Lego, il n'y a pas besoin de Lego licencié. On peut le faire avec les briques de Lego classiques.
Exactement, on peut le faire soi-même, mais c'est vrai que là il y a ce petit Mario, moi, qui pourrait me faire craquer avec un petit afficheur pour qui calcule a priori les briques qu'on attrape dans ce jeu simili jeu de plateau et jeu de Lego. Bon, on verra ça, on jugera ça sur pièce, mais bon, bref, ça aurait pu être un petit peu plus intéressant et plus ancré dans le jeu vidéo. L'autre news, alors toujours chez Nintendo, mais plus lié paradoxalement à l'écurie Sony. Rappelez-vous, on a parlé de Dreams il y a quelques semaines maintenant. Dreams, c'est ce logiciel de création d'univers de jeux sur PlayStation 4 qui permet via donc ce soft de Media Molecule de créer des jeux, en fait des univers de jeux complètement de A à Z. On l'avait noté hein, quand on en avait parlé entre nous, il y a des univers qui pompent clairement d'autres des jeux vidéo existants. On a des niveaux Sonic, on a un niveau Crash Bandicoot que j'avais essayé, qui est très ressemblant. On a vu que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent, on a une profusion comme ça de niveaux qui pompent des univers ultra connus. C'est plutôt rigolo à jouer, très franchement. Alors le problème, c'est qu'évidemment Mario et l'écurie Nintendo en général sont moyennement joueurs avec leur licence, et moi je me doutais qu'à un moment ou un autre on sonnerait la fin de la récré. Et ça n'a pas tardé, enfin ça commence en fait. On a eu l'info par Games Industry d'un joueur, je crois que son nom c'est Piece of Craft, qui a créé des niveaux Mario avec Mario qu'on balade dans des univers eux-mêmes tirés de jeux Nintendo. Évidemment, ça reste fascinant hein, quand tu lances ton niveau dans Dreams où tu te retrouves dans Mario 64. Il y a un petit frisson d'interdit, il y a quelque chose d'assez bizarre de jouer à un jeu comme ça sur ta PS4. Et donc, alors tout ça s'est fait un peu de façon confinée hein, par éditeur interposé, c'est-à-dire que ce monsieur a été contacté par Sony, qui lui a dit, en gros, monsieur, écoutez, on vous prévient, vos niveaux vont sûrement pas pouvoir continuer à être mis à disposition sur la boutique en ligne de Dreams. On rappelle que tous les contenus sont en accès gratuit à l'heure actuelle, hein, on se connecte à Dreams, on va piocher comme ça dans des créations des joueurs. Donc ce monsieur a été prévenu que ces niveaux allaient sûrement être écartés à un moment ou à un autre, puisque Sony a reçu une communication de Nintendo qui leur a dit attention, on vous prévient, on a un problème de copyright sur nos univers et nos jeux, donc il va falloir faire quelque chose. Donc,
sachant pour l'instant, la particularité aussi de Dreams, c'est que il y a les assets qui sont créés, ouais. C'est-à-dire que en fait le personnage de Mario peut être créé et réutilisé par tous les autres joueurs dans leur propre création, ce qui fait que forcément il y a un truc quasi viral, c'est que si un personnage de Mario hyper ressemblant est créé, et ben il va être réimporté dans plein de créations. Du coup, c'est assez. Alors, du coup, ça se passe assez vite.
Ça peut être un problème. Du coup, il y a ce côté viral d'un. Bon, le mot viral en ce moment n'est peut-être pas le plus judicieux, mais en tout cas, voilà, il y a ces personnages qui se baladent. C'est quand même du Mario, Mario 3D qui se balade sur les réseaux de Sony. Donc, en tout cas, ce qu'a dit Sony à Games Industry, c'est que les décisions seront prises au cas par cas, niveau par niveau, et selon ce qui se passe, selon chaque cas de figure. Mais ça risque de bouger. En tout cas, moi hier soir, j'ai relancé Dreams pour vérifier, et ce super niveau qui s'appelle Super Mario 64 HD était toujours en ligne. On peut le lancer, il est toujours là et il fonctionne toujours. Il est toujours disponible. Pour combien de temps, c'est la question. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de fonction save. Je ne crois pas qu'on puisse entreposer sur sa bécane un niveau, parce que certains jeux ont pu le proposer auparavant, et je ne crois pas que ça existe, parce que sinon, je vous dirais vite sauvegarder, parce qu'il est vraiment bien fichu. Très franchement, ce Mario 64 HD, il est vraiment bien fichu, parce qu'on est, Mario devant le fameux château, et on a vraiment cette sensation d'être dans le Mario 64 de l'époque en HD. Donc, ça le fait, mais bon, pour combien de temps, ça reste une question. Mais alors, voilà, sous ce cas un petit peu peu particulier, ça pose plein de questions sur justement les questions de copyright d'un jeu. Lorsqu'on le met comme ça à disposition, la création d'univers de jeux qui peuvent prendre les musiques, qui peuvent prendre des assets graphiques, ça pose pas mal de questions sur la propriété intellectuelle.
Marius,
À l'inverse, tu as le cas de Wipeout, où les équipes de développement avaient félicité un des mecs qui utilisait Dreams, leur jeu hyper filé. Je crois que le truc s'appelle Slide Out. Et vraiment, on avait félicité le mec. Et
bien sûr. Et en même temps, c'est l'écurie Sony en interne. Hein. C'est du Psygnosis chez
facile, ouais.
Et Media Molecule qui est chez Sony. Donc, quelque part, il y a une sorte de... C'est plus facile de valider ça qu'un jeu de l'écurie adverse, concurrente. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait un Wipeout qui était très bien fichu. Il y a des créations assez hallucinantes hein, sur Dreams. On trouve des choses...
Mais c'est vrai que si tu vires tout le contenu licencié, ça risque d'être un carnage.
Il y a beaucoup de Sonic en ce moment. Je suis allé revoir un petit peu hier soir. Il y a beaucoup de Sonic. Sonic, il a vraiment la cote. Il y avait un Crash Bandicoot que j'avais vu passer, mais pareil, Crash Bandicoot, est-ce qu'il risque de sauter ou pas? Beaucoup de Sonic. Moi, j'ai vu qu'il y avait une vraie tendance lourde sur du Sega, du Sonic.
Marius, tu voulais faire un point sur l'Epic Game Store, me semble-t-il.
Ouais, je voulais faire un petit point sur le planning printanier de l'Epic Game Store qui a été dévoilé là il y a quelques jours. Avec un petit DLC de contrôle qui arrive, Foundation, qui promet un nouvel environnement dans la maison avec des nouveaux pouvoirs. J'ai l'impression que c'est un dash avec une espèce de bouclier qui a l'air plutôt marrant. Et surtout, il y a deux jeux qui m'ont beaucoup tenté. Il y en a un qui s'appelle Among Trees, qui visuellement ressemble beaucoup à du Firewatch, qui aurait remplacé le orange par un bleu ciel très sombre. Et qui est décrit par les développeurs, qui est une toute petite équipe, comme un bac à sable survival. Ça, moi, j'ai très hâte de le voir arriver. Et le dernier truc qui m'a bien plu, c'est Industries of Titan, qui arrive en early access dans 15 jours, je crois, et qui est le nouveau jeu de Brace Yourself, qui avait fait Crypt of the Necrodancer.
Ah, yes.
Et qui, là, se lance dans un truc qui ressemble à du Anno dans l'espace, où tu auras des chaînes de... des lignes de production avec des combats spatiaux en temps réel avec pause. Ça, c'est super, super, super. C'est vraiment très tentant.
Alors, et moi, juste, j'avais un tout petit sujet que je voulais signaler. Alors, le truc, c'est que ça date du 12 mars. J'ai juste l'impression que ça fait 4 ans. mais quand même, c'était juste pour le signaler. C'est le nouvel article de Jason Schreier sur Kotaku, donc il a publié le 12 mars, c'est à propos du développement qui est un peu en phase finale, enfin en tout cas je ne sais pas où ils en sont en ce moment particulier, mais en tout cas il était au niveau du 12 mars, ça se terminait de The Last of Us 2, et comme on pouvait le craindre, les conditions de travail sont pas top. Ils ont eu plus de délais, mais c'est plus de délais pour encore plus demander du crunch à leurs salariés. Encore une fois, enfin c'est une super enquête de Jason Schreier. Il y a beaucoup de témoignages. Encore une fois, c'est déprimant.
Ça gâche la fête quoi à chaque fois. Hein. C'est toujours.
Ouais, mais on est en train de se dire que toutes ces années passées, on n'était juste pas au courant. Enfin, on se doutait pas, ou on n'avait pas tous ces trucs qui remontaient. Je pense qu'aujourd'hui, avec Jason Schreier, les développeurs des grands studios ont aussi quelqu'un à qui parler pour relayer ce genre de situation, ce qui fait qu'on arrive à être au courant de ça. Et moi, j'ai posé la question sur Twitter quand j'ai su ça. C'est que nous, en tant que critiques, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce type d'information? On sait que, en résultat, que ce soit sur The Last of Us 2, que ce soit sur Cyberpunk, on va avoir des grands jeux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même des très grosses productions qui vont être intéressantes et il va y avoir des choses à en dire. Mais c'est aussi des productions qui amènent avec elles leur lot de souffrance. Voilà, Marius.
Ce qui est terrifiant, je trouve, avec ce papier, c'est que en plus, l'entreprise est consciente de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que le truc est maladif et date de Uncharted 4, où toute l'équipe dirigeante expliquent que c'était un enfer à boucler et que plus jamais ils referont un truc comme ça, qu'ils éviteront, en tout cas dans la mesure du possible, le crunch. Et ce qu'on voit, c'est que, mais vraiment, c'est un truc structurel, quoi. C'est qu'ils n'arrivent pas à éviter ça et qu'ils sont pris dans une espèce de cercle vicieux où ils épuisent tout le monde, les mecs se barrent à la fin et ils se retrouvent avec des équipes juniors qui poussent au maximum pour garder un niveau de qualité. Et t'as l'impression que vraiment Naughty Dog est pris dans une boucle et qu'ils sont foutus, quoi.
Oui.
La fin du papier est terrifiante dans la même. T'as des devs qui expliquent qu'ils espèrent que le jeu va se casser la gueule que le jeu sera pas à la hauteur pour que Naughty Dog revoie tous ses principes de fonctionnement.
Voilà, oui, donc en fait, et la grande question qu'on va devoir faire avec, j'ai pas de réponse. J'ai posé une question un peu très ouverte sur Twitter, et c'est vrai que entre les gens qui disaient qu'on n'a pas besoin de parler de ces genres de jeux qui ont déjà assez de publicité, etc., et les gens qui disaient que si on peut en parler, mais en parlant aussi des conditions de travail, et puis des gens qui disaient que grosso modo les conditions de travail, on les connaît et qu'il faut juste parler des jeux. Enfin voilà, il y avait plein de positions différentes. Moi, j'avoue que voilà, je suis assez décontenancé parce que le seul truc, c'est qu'on va être. Je sens qu'on va être obligé d'en dire du bien, un peu comme on était obligé entre guillemets de dire du bien de Red Dead Redemption 2, qui était encore à mon avis un très grand jeu. Mais
c'est une question de qualité du jeu. Enfin, tu vois, Red Dead, il s'est pris des scuds aussi d'autres rédactions. Il y a des gens qui ont moins aimé que nous. Nous, enfin. Il se trouve que nous, on était plutôt emballés, quoi.
Ouais.
Et là, The Last of Us, moi, honnêtement, je sais pas ce que je vais en penser. Le trailer est tellement violent qu'il me fout un peu la trompe.
Ouais. Non, c'est pas
vrai. Ouais, le cocktail ultra-violence qu'on peut redouter du jeu, et puis, effectivement, toutes ces infos qui sortent, le cocktail des deux peut être assez inquiétant, ouais. C'est clair.
Oui. Ça, voilà. Plus les dernières vidéos censées nous montrer les super facultés de... Ellie qui a l'air d'être capable de sauter visiblement selon la dernière vidéo publiée sur le compte Twitter de Naughty Dog, donc ça s'annonce extrêmement excitant d'un point de vue du gameplay aussi, je trouve.
On sait ta passion pour bouger les caisses, Franz.
Ouais, non, mais c'est vrai que on verra, mais c'est vrai que ce que je crains aussi par ailleurs, outre ces problèmes de conditions de travail chez Naughty Dog, c'est vrai que leur dernière production, et là j'ai relancé The Last of Us, et je trouve en fait que même d'un point de vue du jeu en soi, c'est pas non plus si extra que ça. Et j'ai peur qu'il reste aussi coincé. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. C'est peut-être un a priori que j'ai, et je serais peut-être démenti, mais je trouverais ça vraiment dommage que tant de gens aient souffert sur ce jeu pour, à la fin, que ce soit juste les mêmes mécaniques qu'on a depuis 15 ans en version juste beaucoup plus belle, quoi, et plus violente, plus hardcore, comme le trailer effectivement le suggère.
C'est le moment de partir. Là, pour le coup, d'utiliser cette formidable capacité d'évasion que peut nous fournir le jeu vidéo. Et d'ailleurs, c'est la formule évasion de Nook Incorporated que nous allons prendre pour rejoindre Animal Crossing New Horizons. Donc on va faire un petit rappel historique. Animal Crossing, c'est sur Nintendo 64 et sur GameCube en 2001, 2002 dans le reste du monde. 2001, c'était au Japon. Après, il y a eu Wild Worlds sur la DS. Il y a eu Let's Go to the City sur Wii. Et peut-être l'épisode un peu charnière, l'épisode qui a été considéré comme le meilleur, en tout cas jusqu'ici, en 2012, c'est bien sûr New Leaf sur 3DS qui a captivé pendant des années, hein, on peut le dire, les joueurs qui revenaient régulièrement. Faut dire que finalement un épisode d'Animal Crossing, ça dure au minimum toute une année, parce que il y a les saisons, il y a les fêtes, il y a les anniversaires, il y a plein de choses à faire avec Animal Crossing. Évidemment, avec la Switch, cet épisode d'Animal Crossing sur la Switch était un tout petit poil attendu par les joueurs, en tout cas depuis un Nintendo Direct dont je n'ai pas la date, dont je n'ai pas la mémoire, j'ai pas la mémoire de la date, je crois que c'était dans un début d'année, je me demande si c'était pas début 2019 où ça a été annoncé. Enfin voilà, donc en tout cas Animal Crossing New Horizons, on prend la formule évasion de Nook Incorporated, on est à l'aéroport, on prend l'avion, on arrive sur une île pas si déserte que ça, on commence à découvrir cet univers. Camille, je te donne la parole en tant que grande spécialiste, parce que tu as fait le, quand même, hein, jeuxvideo.com. et donc, cet Animal Crossing New Horizons, qu'est-ce que ça donne?
Ça donne que, un peu à l'image de Mario Kart, de Super Smash Bros, on a un peu un épisode ultime sur la magnifique ludothèque de la Nintendo Switch, encore une fois. Alors, on retrouve la formule initiale. Voilà, on arrive dans un petit village, où là, pour le coup, sur une île presque déserte, comme tu disais. Et le but, donc tu crées ton petit avatar, et le but, c'est de vivre ta meilleure vie, en fait. Et dans l'idée d'améliorer, de faire évoluer ton petit village, d'améliorer la vie des habitants, donc en faisant évoluer les commerces, en remplissant le musée, en faisant plein de petites tâches qui permettent du coup d'améliorer. Et du coup, dans cet épisode, on a des nouvelles fonctionnalités qui changent quand même pas mal le jeu, mais qui sont un peu comme une évolution un peu logique. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir faire du terraforming, c'est-à-dire que tu vas pouvoir modeler l'île comme tu le souhaites, en rajoutant des falaises, en enlevant, en gérant un peu les cours d'eau, en créant des chemins.
Mais ça, cette fonctionnalité, rassure-moi, c'est dans longtemps. Pour nous, les joueurs normaux, les joueurs lambda.
C'est ça le truc de le rythme d'Animal Crossing aussi, c'est que c'est un jeu qui se découvre dans le temps. Tu parlais tout à l'heure de toute une année pour les saisons, parce que bien sûr, il se passe plein de choses selon les saisons. Tu n'as pas accès aux mêmes ressources, aux mêmes fruits, aux mêmes animaux, si tu veux pêcher pour agrémenter le musée, par exemple. Et là, en fait, du coup, c'est des fonctionnalités nouvelles et super importantes qui arrivent plus tard. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu travailles, que tu retrousses un peu tes manches pour arriver à cette fonctionnalité, quoi. Et du coup, tu l'as, on va dire, moi je l'ai eu au bout de 3 semaines et demie, 4 semaines de jeu assez intensif.
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut quand même progresser dans cette île, l'aménager, faire tous les petits boulots, tous les échanges, pêcher, ramasser du bois, attraper des papillons et ce genre de choses.
Ouais,
parce que pour revenir... Moi, j'aimerais juste revenir, après, je donnerai la parole aux autres aussi, mais c'est pour revenir au cœur d'Animal Crossing. Est-ce que, finalement, c'est quoi l'ADN d'un Animal Crossing et pourquoi ce New Horizons est un Animal Crossing aussi? Parce que c'est vrai que ça évolue de jeu en jeu, mais c'est quoi l'ADN de cette série, finalement? C'est quoi est-ce qu'il y a un but, déjà?
En fait, le truc, c'est d'ailleurs ce que reprochaient beaucoup de joueurs qui lâchaient un petit peu rapidement le jeu, c'est que tu n'as pas d'objectif clair.
C'est ça.
C'est-à-dire tu vis ta petite vie, c'est vrai que tu as des directives plus ou moins directes. Des directives directes, c'est pas mal,
oui,
ça d'ailleurs. Et disons que Tom Nook te suggère de faire des choses, les habitants te suggèrent de faire des choses, de leur rendre service, le musée, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Mais c'est toujours suggéré, mais c'est jamais clair, net, précis, marqué noir sur blanc. Là, avec ce nouvel épisode, ça change totalement. Déjà, tu as le Nook Phone, donc le smartphone, qui est maintenant un outil indispensable dans notre vie, mais aussi dans Animal Crossing. Et dedans, tu as une application qui s'appelle Miles Nook. Et en fait, c'est là que tu as tous tes petits objectifs sur le court, moyen et long terme qui vont un peu t'aider aussi à faire des choses, à te donner un peu des directives, des petits objectifs à accomplir, sachant que tu es gratifié puisque tu gagnes des points et des points, donc des Nook Miles, qui vont te servir à débloquer certains contenus que tu ne peux pas avoir autrement.
Oui,
ça aide les joueurs à jouer à un jeu un peu plus, on va dire, traditionnel, quoi.
Un petit peu plus linéaire avec des choses à faire.
Et du coup, ça, c'est une nouvelle feature qui qui est intéressante pour ceux qui ont envie de se mettre au jeu, parce que du coup, ça va plaire à beaucoup plus de joueurs et de joueuses. Et d'ailleurs, je pense que ça a assez bien fonctionné, puisque maintenant, Animal Crossing a dépassé au Japon le dernier Pokémon en matière de vente. Donc voilà. Donc je pense que, enfin, tous ces petits ajouts, du coup, ça permet d'attirer des joueurs et surtout de les fidéliser plus longtemps dans le temps, on va dire.
Alors, après, on parlera peut-être de la philosophie qui va derrière, en tout cas, derrière ce Nook Phone. Mais moi, je dois avouer que ce système-là m'a permis de dépasser les 3 heures de jeu, ce qui n'était jamais arrivé sur un Animal Crossing, parce que au bout de cette durée-là de 3 heures de jeu, j'étais tellement paumé et un peu perdu dans ce terrain, avec cette impression d'avoir tellement de choses à faire et en même temps rien à faire.
Exactement.
Que voilà, je savais pas comment appréhender le jeu vraiment. Marius, chez toi, c'est important Animal Crossing en ce moment.
Moi, c'est une surprise, parce que franchement, je pensais pas être client d'Animal Crossing. Je remercie Franz d'ailleurs qui m'a poussé à essayer le truc. Non, le premier contact, c'est très marrant parce que on nous présente ce petit monde choupi et très joli et très doux, et en fait, t'arrives sur une île. Tu te retrouves face à un tanuki complètement taré qui est autoritaire, qui te dit que c'est bien joli, t'es arrivé là, mais maintenant il va falloir rembourser ta dette et ton voyage, donc va ramasser des trucs. Et en fait, le début, je trouve, il y a un côté vraiment flippant sur ça, sur le rapport à Tom Nook, qui est ton passeur, tu dois lui rembourser, donc lui trouver des ressources. Ensuite, il va t'expliquer que si tu veux une maison, il veut bien te faire un prêt, mais du coup, il va falloir rembourser. Et tout ce début est vachement moins choupi que ce que j'imaginais. Et après, ouais, moi j'étais. Je trouve que le fonctionnement en système de miles et machin est envahissant, mais pas tant que ça. Et ça permet de pas, ouais, de pas se paumer et de prendre du plaisir avec quand même un moyen de trouver son chemin, quoi. Enfin, de pas trop s'éparpiller. C'est moi, je bute encore sur le problème de trouver des minerais de fer.
Ouais.
Et du coup, c'est bien pratique de savoir comment accéder à une île extérieure pour aller trouver plus de minerais et plus de.
C'est un
objectif, quoi, en fait.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, dans les épisodes précédents, et je parle pas de celui qui est sorti sur mobile, Pocket Camp, qui est un peu différent, mais sur les épisodes canoniques précédents, c'est ça. C'est disons que, en fait, tu savais pas comment accéder à du nouveau contenu et t'avais aucune solution, en fait. Donc, ouais. T'étais un peu laissé, et c'est des fois en discutant au bout d'un moment avec quelqu'un, peut-être que tu as une information utile pour débloquer des trucs. Et des fois, tu avais des surprises. Tu te dis, ah bah tiens, il y a ça dans le jeu, en fait. Tu savais pas du tout où t'allais, en fait. Tandis que là, tu sais déjà un peu plus comment.
Le contact est plutôt facile, en fait, parce que t'es guidé avec le musée qui arrive assez vite, ou tu as envie. C'est quand même un ajout qui est magnifique, je trouve, dans le jeu. Et c'est la première fois que j'ai envie de collectionner des trucs, mais seulement pour aller les voir dans le musée.
Ah oui, parce que ça, c'est une feature qui est là depuis le début.
Je trouve ça vraiment plaisant, quoi. Alors que je n'ai pas du tout la fibre collectionniste.
Voilà, c'est un peu le cœur du jeu aussi, quoi. L'aspect collectionniste, ça a toujours été ça. Hein. Moi, je me rappelle des heures passées à aller chercher des fossiles, pêcher des poissons, justement pour remplir le musée, quoi.
Ouais, mais franchement, ça, je trouve que c'est très, très, très réussi, quoi.
En plus, là, ils ont vraiment amélioré le musée. Il est vraiment très beau, quoi. Enfin, ils ont fait un effort sur les lumières, sur le vent, sur il y a plein de choses, sur les effets météorologiques aussi. Et ils ont vraiment fait un très, très beau jeu, quoi.
Franz, alors, tu as conseillé Marius, donc il faut. Tu es un peu le à l'origine de cet engouement. toi, t'as un rapport plus lointain. T'avais joué au précédent Animal Crossing ou c'est.
Ouais, moi j'avais acheté sur GameCube en 2002. J'avais passé beaucoup de temps dessus et en fait, il m'est arrivé à un moment ce qui m'est aussi arrivé sur celui sur DS et ce que je crains qu'il m'arrive sur celui, le dernier sur Switch. À savoir qu'à un moment, en fait, le fait de devoir retourner tous les jours dans le jeu pour faire quelque chose, et notamment, moi, ma hantise, c'était devenu les mauvaises herbes. En fait, à un moment, ça me décourage. C'est-à-dire, je le prends presque comme une obligation de vie. Et donc, par exemple, celui sur GameCube, je sais qu'à un moment, je l'avais lâché quelques semaines et je n'ai plus jamais osé le relancer parce que je me disais, mais dans quel état je vais retrouver mon village? Il va être rempli d'herbes, de trucs. Les voisins vont, je vais parler aux voisins, ils vont m'engueuler parce que je suis pas venu pendant des semaines.
Ouais. Et on aura des départs regrettables de personnages que t'aimais bien qui sont partis, ouais. Ou une invasion de cafards. Ou...
C'est ce genre de choses. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui parfois, en tout cas, dans mon expérience passée, finit parfois par me créer de l'angoisse. Mais bon, là, pour le moment, ça va. Dans le dernier, là, pour le moment, ça se passe pas mal. Mais c'est vrai que je crains. C'est vrai qu'il y a ce côté, effectivement, ce qu'a très bien expliqué Marius, hein, ce côté un peu pervers du système de jeu Animal Crossing, où on arrive, on se dit ça va être cool, c'est la belle vie, et en fait, c'est vrai qu'on tombe sur... Là vraiment, le concept même des mimes, ça rappelle vraiment les programmes de fidélité. On a l'impression d'être tombé dans un programme de fidélité complètement dégénéré, où on te dit que tu vas gagner des points de fidélité en faisant un peu tout et n'importe quoi, puis à la fin... Donc ça va te permettre d'acheter des choses. Tu rentres dans une sorte de système financier où tu te dis, en fait, il va falloir que j'accumule. Pourquoi à la fin, on ne sait pas trop. Mais bon, mais c'est vrai qu'après, on peut prendre pas mal de plaisir à rentrer dans ce système-là. Moi, je pense que ça risque de finir par m'arriver, c'est qu'il y a un jour ou deux, trois jours d'affilée où je vais me dire, aujourd'hui, je ne le lance pas. Et après, je pense que ce sera malheureusement la fin pour moi avec le jeu. Alors que j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où pour moi, la frontière devient floue entre l'amusement pur et une forme d'obligation un peu quotidienne. Voilà.
C'est vrai que le jeu est bizarre. Le jeu est bizarre dans son mélange d'ultra-consumérisme, où on est vraiment des sauterelles, quoi. On passe notre temps à accumuler des miles, à accumuler des ressources. C'est un truc quand même assez marrant d'aller se foutre à l'autre bout du monde pour piller toutes les îles de leurs ressources. Ça repousse, heureusement, mais ça serait la même chose si ça repoussait pas, quoi. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc assez beau. Moi, en tout cas, moi, ça m'a pas encore frappé le côté déprimant de voir revenir tous les jours. C'est que le jeu t'oblige à une espèce de slow play, quoi. Ça sert à rien de rester des heures dans Animal Crossing, de le binger. Mm-hmm. Je trouve ça assez plaisant de voir un jeu qui te force, qui réutilise ce mécanisme de pause forcée qu'on voyait dans tous les jeux gratuits et compagnie.
Bah, mais ça ressemble un peu au free-to-play sur mobile.
Voilà, mais sans les mécaniques les plus sales, en fait. Là, il y a juste... C'est juste une question de tempo.
Oui, mais après, t'as quand même encore de la monnaie virtuelle qui te permet de débloquer le truc plus vite, quoi, en fait. Mais sinon, on te demande d'attendre, ouais, et de repasser le lendemain, je suis d'accord.
Alors moi, j'ai juste une question, parce que je n'y ai pas joué. J'ai juste vu passer sur les réseaux... une sorte de phénomène de joueurs qui transforment le jeu et qui reprennent des scènes de films d'horreur, ou qui le transforment. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que vous avez constaté ce genre de phénomène ou pas? Enfin, le jeu est assez malléable pour permettre de recréer des scènes de films ou des choses comme ça.
Ouais, ouais.
Ton intérieur, tous tes costumes, et effectivement, tu peux vite...
T'as aussi l'application où tu designs des choses, en fait, tu crées des motifs, et tu peux les appliquer sur des objets, sur le sol, sur les murs, sur ton... Comme du maquillage.
Donc tout est possible, quoi.
Et là... Donc tu peux faire du faux sang.
D'accord, oui, donc il y a bien la porte ouverte à tous les extrêmes.
Et ce qui est quand même surprenant, moi ce qui me surprend dans tous les Animal Crossing auxquels j'ai pu jouer, alors je vous ai dit, hein, les précédents, j'y ai rarement joué plus de 3 ou 4 heures, c'est que en fait on a tous les mécanismes les plus insupportables du jeu vidéo, hein, on va dire, c'est une sorte de compile de tous les systèmes de récompense au hasard. Le système de base du jeu vidéo qui est la récompense au hasard, on ouvre un coffre, on sait pas ce qu'il y a dedans, et donc on a envie d'ouvrir des coffres, ben là finalement on a envie de pêcher mais on sait pas quel poisson on va pêcher, on a envie de creuser, on sait pas qu'est-ce qu'on va trouver, on a envie de taper sur les arbres, on sait pas quel type de bois, enfin voilà, il y a ce hasard de récompense qui irrigue le jeu de partout. Et on sait très bien que c'est la méthodologie primaire de l'addiction en jeu vidéo, et pas que en jeu vidéo, c'est vraiment ça. Et donc on a ce système-là qui est vraiment limite, quand tu le regardes de loin, Animal Crossing est toxique. C'est une accumulation de systèmes addictifs. Mais ça déborde, c'est-à-dire que j'ai rarement vu un truc qui déborde à ce point. Et là, on rajoute avec les miles à accumuler, les clochettes, c'est-à-dire que t'as deux compteurs de machins à collectionner, plus la collectionnite avec des éléments. Alors, quand même, on est, quand je dis il y a tous les ingrédients, c'est, on a des éléments communs, rares, ultra rares, exceptionnels. On a des éléments répétitifs, donc il faut être là, dire bonjour à ses amis tous les jours pour gagner des points et des trucs comme ça. Donc, on a tous les éléments de la culture toxique du jeu vidéo qui sont là. Et pourtant, par un enrobage choupi de trucs...
Parce que mon jardin, il est quand même très beau.
Ouais.
C'est ça. Par un enrobage de trucs...
Les gens, ils sont quand même bienveillants. C'est mignon.
Mais par ça, eh ben, on arrive à se décaler, je ne sais pas comment, de cette énorme bulle toxique qui est objectivement Animal Crossing. Je sais pas.
C'est le côté slow play, moi, je trouve agréable.
Ouais.
C'est que le jeu t'encourage pas à rester pendant des heures. Parce que sinon, tu vas vite faire toujours la même chose. Et je trouve que ça évite justement de tomber dans le trop toxique où t'as les orbités à essayer d'avoir ton truc qui pop enfin, quoi.
Ouais.
Ça, je trouve que c'est le qui sauve le jeu avec son enrobage choupi.
France.
De ce point de vue, je trouve qu'il y a. Moi, en tout cas, je développe un rapport un peu paradoxal avec ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux concernant Animal Crossing, parce que effectivement, ben, je pense, ben, on peut en parler deux secondes. Hein, je pense que c'est clairement, on va parler de nos jeux du confinement plus tard, mais là, je pense que ce jeu ne pouvait pas mieux tomber quand même aujourd'hui.
Tout à fait.
Et donc du coup, voilà, il y a plein de gens qui partagent plein de choses sur les réseaux sociaux, et du coup, je trouve ça. Moi, quand je vois passer ça, je vois, ah, ils ont des super vêtements, une super maison, un super jardin, etc. Et je trouve que moi, ça me donne un côté, genre, presque compétitif. Il faudrait que mon jeu soit aussi beau. Moi, mon île, elle est pas très belle. Ma maison, elle est pas très belle. J'ai un papier peint super moche. J'ai un parquet très laid aussi. J'ai rien accordé parce que je me suis pas occupé d'avoir des choses pour le moment. Et donc, du coup, quand je vois les autres, je me dis, ah, bah, putain, merde, moi, je suis en train de foirer mon truc.
T'as raison, en plus, ça, finalement, ça, on retrouve un peu les travers de notre société, c'est que tout est basé sur l'apparence, parce qu'en plus, tu peux rien faire, en fait, dans Animal Crossing. T'accumules des objets pour les montrer, en fait. Du coup, tu fais rien avec les objets, donc tu t'accumules des choses pour les montrer.
Marius ?
Nous, on joue sur la même Switch, et on passe notre temps à se faire des cadeaux.
Ouais.
À créer vêtements, des petits machins qu'on s'envoie l'un l'autre ou des trucs comme ça. Ça, c'est plutôt rigolo, quoi. Et c'est pas dans le but de pâter l'autre, c'est juste marrant d'échanger.
Mais il y a quand même... Il y a quand même un point dans cette bulle de toxicité. Alors, je répète ça, mais parce que c'est objectif. Et en même temps, il y a ce que tu dis, Marius, le côté slow play, le côté lenteur assumée du jeu, le côté vous allez avoir une nouvelle maison, mais elle arrive demain. Où vous avez commandé un truc sur le Nook Shop, mais il va arriver dans votre boîte aux lettres demain. Rien que ça, je trouve que ça contrebalance finalement le jeu. Mais il y a ce truc que toi tu as signalé dans jeuxvideo.com, Camille, c'est le Nook Phone, c'est que quand même par rapport aux autres Animal Crossing, on a en plus les notifications du téléphone.
Et ouais,
c'est quand
moi,
même un truc de dingue. C'est...
Je jouais toujours à Animal Crossing pour m'évader, penser à autre chose que le quotidien. Et voilà que je suis rattrapée encore avec un smartphone. Et ces punaises, ces notifications qui sont visuelles, qui vibrent et qui font des petits bips incessants. Et en plus, bah, ça marche. Tu vois une petite pastille rouge, bah, tu ouvres ton téléphone et tu regardes et tu te perds dans tous tes objectifs et tes machins. Et du coup, ça casse un peu le côté... justement, où t'as aucune obligation, tu te promènes, tu prends le temps et tout, et je trouve que là, du coup, ça vient un petit peu comme dans la vraie vie, en fait. Ça peut vite devenir chronophage et toxique, en fait.
Et ce que tu rappelles aussi, c'est qu'il n'y a pas de mode avion, et ça, c'est quand même
incroyable. Oui, tu peux même pas stopper le truc.
Et
après, ça réalise pour ma fille, hein, qui d'un coup a accès à un téléphone et passe son temps dessus, des patrons et des machins.
Les enfants font comme les grands, comme ça.
Voilà.
Non, moi, le gros truc qui me gêne, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de créer deux îles, notamment où on joue à plusieurs, on partage la même Switch.
Ça, c'est chiant.
Je trouve que c'est très pénible, surtout moi, dans ma consommation du truc, je joue moins que ma fille à Animal Crossing, et je suis le leader, enfin le player one, qui a créé l'île, qui a le pouvoir de créer des bâtiments et des trucs comme ça, et je sais que je la bloque en ne jouant pas assez.
Tu la bloques, en plus si vous jouez le même jour, toi tu récupères des ressources qu'elle pourra pas récupérer, et en plus elle, tu la prives de vivre vraiment toute l'expérience du jeu, quoi.
Ouais, et moi je passe derrière, du coup quand j'arrive, bah, y a beaucoup moins de ressources, et
du coup,
c'est compliqué.
Du coup mon copain il a joué sur ma Switch, et comme il a une Switch, bah, finalement il s'est racheté le jeu après, parce que il trouvait que c'était, enfin tout était baffé, il n'y avait rien de très intéressant finalement.
Vous voulez dire, parce que moi j'ai lancé Animal Crossing, j'ai toujours pas filé Animal Crossing à mon fils qui trépigne. Je me demande même s'il est pas derrière cette porte en train d'attendre que j'ai fini l'enregistrement pour récupérer. Ça veut dire qu'il va pas pouvoir commencer sur une île déserte en fait.
Non.
Même en prenant son compte Switch.
Non. Oui. C'est par profil en fait.
Tu changes d'utilisateur, mais t'as tout.
C'est profil utilisateur de ton compte Nintendo en fait. Donc il faut.
Scandale.
T'as pas une deuxième Switch.
Mais non. Mais c'est un scandale.
Ouais, c'est vrai que ce serait bien d'avoir le choix. Après, c'est bien de partager une île aussi, je trouve. Ça a des côtés marrants. Hein.
Tu peux jouer ensemble,
aider,
tout ça.
On peut se faire des cadeaux, on peut se laisser des cadeaux, voilà. Ouais. On peut laisser un truc dans la maison de l'autre.
Partager l'île, je trouve ça très chouette, mais bloquer la progression de l'autre parce que je ne vais pas assez vite, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est dommage. À la limite, il faudrait juste créer un truc dynamique où chacun peut intervenir à égal niveau, tu vois. Mm.
Ouais, et j'ajoute que bon, bah comme sur Xbox et sur PlayStation, pour jouer en multi, il faut s'abonner à l'abonnement Switch Online ou Nintendo Online, je sais plus. Y a ça aussi. Y a des gens qui ont été surpris, je sais. J'ai vu ça que en fait, pour jouer à plusieurs, et ce qui est plutôt assez sympa dans cette période de confinement, c'est de pouvoir visiter l'île de chacun et jouer. Bah, t'es obligé quand même d'adhérer au.
Nintendo, ils ont vachement durci ça. Hein. Mario Maker 2, c'était pareil. Il fallait passer à l'option, à l'abonnement payant pour.
J'ai vu que ça choquait, mais finalement, Xbox et PlayStation le font depuis un moment aussi. Donc.
C'est bon, hein, Dreams, t'as pas besoin d'être en payant pour échanger des contenus, par exemple.
Oui, mais tu joues pas vraiment ensemble.
Ah non, c'est pas du jeu en multi, bien sûr.
Pas du jeu multi.
Camille, toi t'es plongée dans ce jeu depuis quelques semaines déjà, du coup, il va avoir cette même capacité dans le temps à se renouveler. C'est vrai que là, par exemple, ce qui moi m'amuse pas mal, c'est que on va bientôt arriver, malgré même si c'est un peu triste de voir ça depuis sa fenêtre, mais ça va bientôt être le printemps. Mais donc toute la phase Animal Crossing d'hiver avec la neige, finalement il va falloir attendre 9 mois pour 9 mois pour l'avoir en fait.
C'est... Bah, si tu es sage, oui, mais il y a des gens qui ne sont pas sages,
c'est-à-dire
que dans Animal Crossing sur Switch, tu peux tricher et tu ne te fais pas punir.
Bon, alors il faut que tu développes.
Tu peux changer l'heure et la date de ta console Switch.
D'accord.
Et tu peux, voilà, potentiellement aller plus vite dans le jeu, quoi.
Tu l'as fait sur GameCube. Je m'en étais beaucoup voulu.
Ouais.
C'est ça. Et après,
t'as plus envie de. Tu écourtes ta partie finalement. Après, t'as plus trop d'intérêt si t'as déjà tout vu, tout fait. Sauf que je pense que Nintendo va faire aussi des événements de temps en temps en fonction de ce qui se passe dans le monde. Enfin, je sais pas s'il y a des fêtes ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y aura des événements, quoi. Mais...
un événement marquant qui nous bloquerait tous. Il faudrait faire un spécial coronavirus. Où tu peux plus quitter ta maison.
Je sais pas si toi t'as vu, mais t'as des masques chirurgicaux, des médecins.
Ouais, encore. C'est un des premiers objets proposés par le jeu, c'était effectivement un masque chirurgical. Je trouve ça assez.
Moi je l'ai pas eu ça, la rupture de stock.
Ah merde.
Donc, Animal Crossing, vous l'avez compris, c'est un peu le jeu, même si on va en reparler en fin d'émission, on va faire une petite sélection, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un jeu plus adapté à cette période où on a besoin d'évasion, on a aussi besoin, je pense aussi que c'est là où je parlais de choses toxiques, mais finalement, ces éléments répétitifs et tout ça, ça crée une sorte de quotidien aussi, ça crée des rendez-vous, ça crée tout un truc qui peut aussi servir de repère, servir de rendez-vous, de choses comme ça qui finalement sont peut-être plus agréables que toxiques en cette période, ouais. C'est vrai que...
Ouais, je suis assez d'accord. Ça a permis, tu vois, le matin, tu arrives, tu ouvres sur ta petite île, tu sors de chez toi, tu te dis, tiens, mais je vais aller dire bonjour à mes voisins, hop, tu gagnes des petits points. Puis hop, tu vas aller déterrer les fossiles du jour, tu vas aller faire ta petite routine, quoi. Puis après, tu vois où t'emmène le jeu. Mais ouais, comme tu dis, il y a un côté, on a peut-être besoin de repères et ça permet de faire comme si on avait une vie normale dans Animal Crossing, quoi.
C'est ça. Donc on peut remercier le jeu pour ça. Merci Camille d'être d'être passée nous voir. Tu as évidemment même confiné, même en télétravail. Il y a les journées de travail sont intenses et donc c'est super cool de t'avoir eu dans cette émission. En avance par rapport aux autres, mais quand même parce que il faut tu peux pas partir sans ce rituel là. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi en ce moment?
Je disais que j'avais des difficultés à lire, mais j'ai quand même commencé un livre. Ça s'appelle Chronique du pays des mers de Elisabeth von Arkberg. Alors, l'histoire est assez marrante, enfin assez marrante, disons par rapport au contexte, c'est qu'en fait, il y a eu un virus qui a déséquilibré les naissances et du coup, il n'y a presque plus d'hommes sur Terre. Et donc, du coup, les femmes ont mis en place une insémination artificielle un peu incertaine. Et du coup, du coup, le monde est complètement déséquilibré et on va voir ce que ça donne d'avoir un monde avec plus de femmes que d'hommes. Voilà.
D'accord. Et c'est bien, tu l'as pas fini du coup, mais
Non, j'ai commencé. C'est plutôt très agréable à lire. Ouais. C'est un peu étrange de lire un livre où un virus est venu. Mais bon, c'est même pas fait exprès. Hein, mais...
Encore merci d'être passé nous voir. Ça fait plaisir de te recroiser si rapidement. Et puis, de toute façon, tu es toujours la bienvenue hein, ici.
Merci.
Il y aura une autre occasion.
Bonne continuation, bon courage avec le confinement et prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt.
Ciao.
Bye bye.
Salut.
C'est le moment parce que je ne l'ai pas annoncé, mais il est bien là. C'est quand même le moment d'accueillir la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin. Alors c'est vrai que les jeux de société en ce moment, c'est plutôt les jeux en famille, hein, parce que pour au niveau si c'est il y a bien un truc qui marche moyen en visioconférence, c'est bien ça, c'est les jeux de plateau. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de suivre l'actualité. Salut Jérémy.
Salut Erwan, surtout n'y vois aucune référence à la situation actuelle, on va parler cette semaine d'une ville de Paris apocalyptique. Laisse-moi te lire le texte d'introduction. Une impensable catastrophe a ravagé l'Europe. Les principales infrastructures de Paris sont détruites. En quelques semaines, la ville s'est recouverte d'une étrange végétation luxuriante. Les survivants de l'apocalypse doivent se rassembler et retrousser leurs manches pour reconstruire une civilisation dans ce nouvel Éden. Ne vous fiez pas à sa direction artistique très colorée à la Nausicaa, très BD comme ça. Paris New Eden est un vrai jeu de gamer. Le grand plateau de jeu au centre de la table représente une ville de Paris dévasté. On y reconnaît la tour Eiffel enfouie sous les arbres, un semblant de dôme du Sacré-Cœur, les ruines de Notre-Dame, une gare, il reste pas grand-chose. Le jeu se joue sur une année pendant 4 saisons, on va recueillir des survivants, on va construire notre refuge. Il y aura une variété d'événements à surmonter, il faudra aussi veiller à ce que notre population ait suffisamment de nourriture pour survivre. Au début de chaque saison, on va jeter un certain nombre de dés sur 5 lieux différents éparpillés dans la ville. Sur chaque face des dés, vous trouverez des illustrations très mignonnes d'ailleurs de 5 types de survivants différents. La 6e face représentant un survivant Joker en quelque sorte. Vous aurez donc le choix, s'ils sont disponibles, de recruter des bricoleurs, des combattants, des guérisseurs, des sages ou des fermiers pour votre refuge. Chaque lieu vous permettra d'effectuer une action différente. Et puis il y a aussi les cartes aménagement que vous pourrez poser si vous réunissez les conditions suffisantes. En général, un certain nombre de survivants d'un certain type. Et puis il y a des cartes actions, des cartes événements, puis de la bouffe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Paris New Eden est un jeu très riche, on a mis près d'une heure à lire les règles. Mais personne ne l'a regretté, on s'est beaucoup amusé. Là, rien que de vous en parler, j'ai envie d'y rejouer. De 2 à 4 joueurs, le jeu en lui-même n'est pas très long, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et à partir de l'âge de 10 ans, ça passe, on reste quand même dans l'accessible. C'est chez Matago, les auteurs Ludovic Maublanc et Florian Grenier. C'est magnifiquement illustré par Agnès Ripoche, Paris New Eden, c'est du bon. Et voilà, et maintenant, petite polémique. Il faut dire que Silence on joue est très écouté dans la communauté des jeux de plateau. Et on va dire qu'un membre d'un média de cette industrie a dit que j'en sensais toujours tout, que c'est toujours tout rose et que mes critiques n'avaient pas vraiment de substance. Alors oui, je n'ai que 2 minutes par semaine et qu'au-delà de la critique, je prends souvent le temps d'expliquer les règles. Et surtout, y a plein de jeux que j'ai pas vraiment bien aimé et j'en parle pas. Voilà. C'est pas que je me sens obligé, mais je vais en balancer quelques-uns. Par exemple, Slide Quest, qui est un jeu familial, mais on n'a pas vraiment compris. Ça ne nous a pas intéressé. J'attendais aussi beaucoup du jeu Mechanica qui a été kickstarté. Et ben, je l'ai trouvé insipide. Voilà. Et puis un troisième pour la route, City of Gears, un gros jeu avec plein de matériel. Il est hyper sexy, il m'a coûté une blinde, mais j'ai été très très déçu. Les parties sont trop courtes, ce jeu c'est que de la gueule. Et voilà, ça c'est dit. Vive la grande communauté du jeu de plateau. Bye bye.
À la semaine prochaine, Jérémy, en tout cas la semaine prochaine, sans doute. Enfin, si ce podcast-là, ce qu'on est en train de faire, sort, donc normalement, on essaiera de refaire ça en fonction des disponibilités des uns et des autres. C'est le moment. Alors, j'ai failli dire, ouais, tu t'en es offusqué très très vite, Patrick, que c'était pour certains pas forcément le jeu idéal en confinement. Et pour d'autres qui recherchent du défoulement, qui recherchent du défi, qui recherchent peut-être un peu de, ouais, de l'exotisme. Je sais pas le mot que je choisirais. C'est évidemment, ça vient d'arriver sur PC, PS4 et Xbox One. C'est le nouveau jeu d'ID Software. C'est bien sûr Doom Eternal. There is only one dominant life form in this universe, and it carries a steel-barreled sword of vengeance. Welcome home, Great Slayer. Avec sa petite musique bucolique, évidemment, c'est Doom Eternal qui fait suite au Doom de 2015 dont nous avons parlé en 2016, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020. grâce à toi notamment, Patrick, je pense qu'on en a parlé sur la sortie en Switch, sur différentes versions qui sont arrivées de ce jeu quand même qui a marqué énormément le Doom de 2015 par sa 2016, oui.
Attention, on touche à des fondamentaux.
Non, mais qui a marqué, parce que c'était un vrai reboot pour le coup, qui n'avait pas peur de reprendre les fondamentaux, de reprendre ce qu'était un Doom finalement, qui redéfinissait un peu le genre en mode fast FPS, en mode un peu très nerveux, très mobile, qui ne suivait plus un peu tout un truc de, on était très très loin du cover shooting et de ce genre d'approche, voilà. Et donc ce Doom Eternal qui a été reculé de quelques mois et qui arrive enfin, je te laisse la parole, Patrick. Ce Doom Eternal, t'en as pensé quoi?
Ouais, alors là, ici, on n'est pas sur une île avec des oursons qui se font des cadeaux et des papouilles. On n'est pas du tout dans cet univers-là. On est retour sur Terre, comme dans le Doom 2, d'ailleurs, de 94. Les armées démoniaques sont arrivées sur Terre et évidemment, ça se passe très très mal. La Terre est en ruine et en fait, on débarque dans un décor post-apocalyptique assez prenant. Alors moi, j'ai commencé par un disclaimer, c'est que j'ai eu le jeu tardivement, donc j'ai pu y jouer 5-6 heures, voilà. Pour juste situer, c'est-à-dire que je suis loin de l'avoir fini, j'ai à peu près 6 heures de jeu, mais assez pour avoir goûté au. Bah déjà, pour moi, il y a un truc qui marche tout de suite, c'est les mécaniques. La mécanique, tu parlais du Doom 2016, c'était ça. C'est-à-dire que le Doom 2016, tout le monde se l'est pris un peu dans la figure à l'époque parce qu'on craignait un Doom un peu dévitalisé des pointures de l'équipe de id Software qui est parti depuis, qui s'est étiolé. Donc tout le monde craignait un Doom purement mercantile, et au lieu de ça, c'est un Doom qui a foutu une claque un peu à tout le monde par son gameplay super rythmé. Donc le challenge pour moi de Eternal, c'était de réussir quand même à recréer une forme de surprise, ne pas seulement se reposer là-dessus. Et moi, ce que je ressens tout de suite après quelques heures de jeu, c'est que vraiment on sent que ils tombent pas dans le piège de reprendre quelques nouveaux décors et de dire bah allez, on reprend le même jeu, on balance des décors en plus. On comprend pourquoi il a pris du temps à être développé, parce qu'il y a des nouvelles propositions, et puis il y a une ampleur dans le jeu, on va revenir dessus. Donc il y a de nouvelles choses qui arrivent. Certaines peuvent être critiquables, mais en tout cas, on sent que le jeu, il a rien perdu de sa hargne. Enfin, c'est un jeu, tu le lances, tu te prends des coups tout de suite. Enfin, il est dur. Déjà, t'as un niveau de difficulté qui est balèze d'entrée. C'est-à-dire que il est sans pitié. Et moi, les choses au bout de quelques heures de jeu qui me restent, et je pense qu'elles vont me rester longtemps, ce sont des visions. Je trouve que le jeu, il a une classe dans sa mise en scène, dans son level design, dans le scope. Tu vois, dans l'ampleur de la mise en scène, il y a des. Moi, j'ai eu des images pendant mes parties qui me resteront, je pense, très longtemps, avec des décors. Donc, on est sur une planète Terre complètement ravagée, et tu as cette sensation d'arriver après des batailles dantesques quand tu te balades, tu déambules dans des décors avec des créatures gigantesques que tu vois au loin. Tu as mais vraiment, c'est le terme qui me revient avant même de parler du gameplay, c'est l'ampleur du truc. C'est-à-dire que moi, je suis resté bouche bée devant certains écrans que je trouvais magnifiques, même s'ils sont plutôt morbides. Hein, on n'est vraiment pas dans quelque chose de très coloré. Mais il y a une cohérence, et je trouve qu'il y a une force dans ce que montre ce jeu. Je vais pas parler de narration environnementale, ce serait peut-être un petit peu pédant sur un jeu comme ça, mais tu as, dans certaines scènes, moi j'ai été pris à la gorge en imaginant ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire que tu as des champs de bataille complètement ruinés, tu sens qu'il y a eu des vraies batailles dantesques, et le décor te le montre bien. Et surtout, le level design est très bien fichu et te montre, justement t'invite à te balader dans les décors, à visiter des endroits. Tu vois, tu aperçois des géants, des colosses sur lesquels tu vas te balader concrètement. Donc, waouh, vraiment déjà, il y a l'ampleur d'office. Au bout de quelques heures, tu te dis, bon sang, c'est vraiment, vraiment impressionnant. T'es encore sur des vestiges fumants de restes de bâtiments terriens et puis de batailles gigantesques.
Franz, toi, c'est quoi tes impressions?
Ouais. alors moi j'étais, c'est marrant parce que je suis pas du tout un joueur historique de Doom, et le 2016 j'avais attendu je crois un an avant d'y jouer. En fait au départ l'esthétique me rebutait, je me disais je craignais un effet Turok 2, ce qu'on avait fait Turok 2 sur Nintendo 64, à savoir une forme d'avoir mal à la tête, d'être dégoûté visuellement par le jeu à la fin. Ce qui m'a beaucoup surpris avec le Doom de 2016, c'est que non seulement il m'a pas provoqué ce choc esthétique négatif que je craignais, mais en plus c'est vrai que c'est sans doute un des FPS les plus fun auxquels j'ai jamais joué. Et donc, j'attendais beaucoup ce Doom Eternal, là. Et je dois dire, alors effectivement, la description qu'en a donné Patrick est tout à fait juste. C'est un jeu qui est extrêmement impressionnant. Alors, personnellement, l'histoire, on passe totalement au-dessus. Mais c'est un jeu qui est extrêmement impressionnant, effectivement, pour les tableaux qu'on voit. Alors, moi, je ne sais pas d'où sortent ces gigantesques combattants, là, dont on voit les vestiges dans les décors. Mais en tout cas, c'est extrêmement impressionnant. De voir ça, il y a effectivement des tableaux complètement fous. Et alors après, effectivement, il y a ce système de combat qui était déjà très très réussi en 2016, et là auquel ils ont ajouté des couches. Ils ont rajouté quelques couches de subtilité supplémentaire, quoi. Ouais. On a un double dash maintenant, donc qui permet d'aller encore plus vite sur les ennemis. On a un objet qui permet de les cramer. En fait, ils ont mis en place une forme de système de pierre feuille ciseaux. Vraiment bien fichu. En gros, chaque arme a sa fonction contre chaque ennemi. Et après, on a des possibilités aussi. Voilà, on a un truc qui permet de les enflammer pour gagner de l'armure. Donc, si on a besoin d'armure, on utilise cet objet. Si on a besoin de vie, il faut utiliser les fameux glory kills. Donc, quand on a tiré sur un ennemi, il finit par clignoter. Donc, on peut se précipiter sur lui pour le défoncer, ça, il donne de la vie.
Et ça, c'est assez tactique d'ailleurs. C'est vraiment une couche. C'est très intéressant ce qu'il propose. C'était déjà là sur le premier. Il y a une couche en plus où vraiment, au moment, pendant les combats, ils peuvent avoir l'air très bourrins à l'écran quand quelqu'un regarde une partie, mais en fait, tu passes ton temps, je dirais pas comme dans une partie d'échecs, mais presque. T'es déjà sur le coup d'après, sur qui tu vas aller frapper après et comment, à quelle vitesse. Ça, c'est vraiment assez impressionnant, je trouve.
Moi, c'est ça que je trouve absolument génial dans ce jeu. Pour le coup, je trouve que c'est un exercice intellectuel extrêmement satisfaisant, en fait.
C'est clair.
Parce qu'on se retrouve dans chaque arène, on se retrouve à devoir élaborer une stratégie, à planifier les actions. Mm-hmm. J'ai besoin de munitions, je vais utiliser une tronçonneuse sur tel ennemi. J'ai tel ennemi dans mon champ de vision au loin, je vais devoir sortir le fusil et le sniper. J'ai tel autre ennemi, je vais utiliser le fusil, etc. Ça semble bête dit comme ça, mais en fait, c'est vrai que quand on est en fin de l'action, ça demande une mobilisation intellectuelle, vraiment, que moi, personnellement, je connais pas beaucoup de FPS qui m'ont réclamer autant de compétences intellectuelles.
C'est vrai. Et malgré tout, ça reste toujours très lisible.
Tout à fait.
Juste rassurez-moi, parce que j'y ai joué aussi. Quand vous parlez de d'intellectualisation et de et de mise en place tactique, vous parlez bien de quand on est mort trois fois. C'est-à-dire que c'est pas ou alors moi je parce que moi j'y arrive à peu près quand je suis mort trois ou quatre fois à un peu scénariser mon run mais la première fois découvre les trucs et je me fais bananer la tête sévèrement et après c'est quand je reviens où je me dis ah oui tiens il faut que je regarde ce qui se passe là ou là et machin, c'est bien ça hein.
C'est ça. Alors, ce qui est étonnant, moi, et en y jouant, je l'avais pas ressenti sur le 2016, et là, en y jouant, vraiment, je disais, on est beaucoup plus proche, moi, en gameplay, en feeling, je suis plus proche d'un Quake 3 frénétique, avec des niveaux très, tu sais, en hauteur, très, très verticaux, finalement, et plus j'y joue, et plus j'ai une sensation d'être sur un Quake, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une proximité, même dans le feeling des ennemis, etc. Il y a vraiment quelque chose qui pour moi, renoue avec le Quake 3, avec ses, tu sais, les bumpers, on les avait déjà en 2016. Mais je trouve que là, il y a vraiment le côté frénétique qui est vraiment appuyé, puis tu sais, l'enfermement sur dans des arènes, les combats se retrouvent, tu te retrouves assez vite dans des arènes, le temps d'éliminer tout le monde, de continuer, t'as un vrai feeling Quake avec du coup des nouvelles couches qui ont été apportées, comme tu disais France. Il y a de l'escalade, il y a effectivement les nouveaux sauts. Alors pourquoi pas, je trouve que c'est plutôt intéressant, mais alors c'est pas toujours. Moi hier, je sais qu'à un moment, j'ai failli faire un rage quit. J'étais sur une séquence de plateforme super tendue. Et alors je n'ai pas balancé ma manette parce que casser l'écran, c'est pas forcément une bonne idée en ce moment, on va éviter. Mais ouais, vraiment hier, je me suis retrouvé dans une séquence de plateforme super tendue. Et alors je comprends l'idée et moi je trouve que c'est plutôt louable de leur part chez id Software de dire on questionne les mécaniques, on essaie d'avoir quelque chose en plus de. Alors là, moi, voilà, sur les passages de plateforme où vraiment j'ai buté hier, je vais, est-ce que c'est vraiment sa place dans Doom? C'est la question. Après, il faut vraiment savoir qu'il y a des moments tendus de ce côté-là. Après, je trouve que le gameplay est vachement enrichi avec ces systèmes, justement, de ruées, de sauts en avant. Ça te permet, tu sens qu'ils ont vraiment voulu questionner le gameplay de Doom, en fait, de l'essence du 2016. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas juste une flopée de WAD et de cartes supplémentaires en disant, voilà, allez hop, continuez avec des nouvelles maps. C'est plus que ça. On sent que ils ont vraiment chercher à peaufiner le gameplay. Il y a des choses qui ont été mises en plus dans le gameplay, dans la façon de se mouvoir. Et je pense qu'on aborde les combats différemment. Il y a des choses aussi nouvelles qui paraissent anecdotiques, mais qui sont importantes. C'est par exemple les impacts sur les ennemis. T'as les impacts physiques, les ennemis s'endommagent physiquement, mais ça te permet aussi de visualiser l'état de santé d'un ennemi. Et donc de jauger s'il va bientôt tomber, si tu vas bientôt pouvoir lancer un finish him, tu vois, pour avoir le plus de bonus possible. Les glory kills. Donc, en fait, tout ça est très logique. Enfin, je trouve qu'ils ont poussé les curseurs vraiment de la logique de 2016 en respectant les fondamentaux. Et puis, en tentant d'autres choses, comme par exemple le hub. Il y a un hub central maintenant, par exemple, dans le fameux vaisseau du héros. On sent qu'ils ont essayé de questionner, d'apporter des nouvelles choses. Mais attention, avec un niveau de difficulté, je trouve qu'il est très exigeant. C'est-à-dire que le jeu te lâche rien, quoi. Vraiment, il faut vraiment s'accrocher. Alors, ça fait partie du lot aussi, Doom. Hein. Ça n'a jamais été forcément un jeu facile. Mais là, on sent qu'il y a vraiment une
difficulté qui est là tout de suite.
Ouais, clairement, je trouve que le jeu. Mais ça, c'est louable. Hein. Enfin, voilà, c'est clair, net, c'est dit dès le début. Voilà. Et après, moi, je trouve aussi qu'une des forces, c'est vraiment, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est le level design. J'adore le level design. Je trouve la façon dont tu te balades dans une carte, tu vas redécouvrir certains passages parfois, ces monstres monumentaux, tu vas marcher dessus, tu vas les voir sous différents angles. Le jeu, il joue beaucoup que les angles aussi au sein d'une carte. Et tu sens que les cartes, d'ailleurs, la carte 3D que tu peux activer, tu sens qu'ils ont été pensés vraiment physiquement avec une maquette, j'imagine.
Moi, j'ai j'ai quelques séances de jeu, mais assez courtes. Alors, je sais pas si je suis entre Marius et vous, sur le fait que j'avoue que, au bout de 40 minutes de ce Doom Eternal, je sature. Hein, je suis un peu en mode. C'est un
pourquoi
peu.
C'est l'univers.
Non, c'est vraiment. On est vraiment dans le. Dans comment dire cette action un peu débridée et la violence, enfin les glory kills, les trucs comme ça. Visuellement, on est quand même sur un truc très très prenant, et donc c'est là-dessus où j'ai eu du mal à enchaîner plusieurs heures d'affilée ce jeu. Mais c'est vrai que il prend tout de suite, c'est-à-dire que bon, déjà le premier, enfin en 2016, le jeu prenait pas énormément de pincettes, hein. Il devait y avoir une intro ludique de 15 minutes et on rentrait dans le jeu. Là, c'est 0 minute, c'est-à-dire qu'on rentre dans le jeu directement.
Quasiment, ouais. T'as une petite mise en bouche quand même. On t'explique ce qui se passe.
Cinématique d'intro après c'est.
Mais quand même, malgré tout, je suis d'accord avec toi. Mais malgré tout, tu sens quand même une volonté d'augmenter l'univers de Doom. Mmh. On parle quand même d'un FPS qui était ultra basique par définition. C'était l'ADN du shooter de base avec un soldat qui allait tuer des démons. Et malgré tout, là, tu sens qu'il y a une volonté d'accroître tout le lore Doom. Et ça, je trouve que Bethesda, ils le font bien. Ils l'ont bien fait sur Wolfenstein, qui était pareil, qui était quand même un shooter basique. Ils ont quand même sucré tout un univers autour avec une narration, avec les personnages, etc. Et là, dans Doom, pareil, quand tu regardes les fiches sur les monstres, on t'explique tout le lore, d'où ils viennent, comment ils sont conçus. Et puis là, l'ampleur, comme je disais, l'ampleur des décors, mais aussi l'ampleur de toute cette histoire qu'on te raconte dans les fiches. Après, il faut avoir envie d'aller gratouiller dans les fiches et de lire ce qui s'est passé. Ça, j'en conviens. Mais même, rien qu'en regardant les décors, tu rentres dans des cathédrales. Je trouve qu'il y a les décors parlent d'eux-mêmes. Voilà, les décors parlent d'eux-mêmes. Ils sont inquiétants, ils sont gothiques. Je trouve que c'est un jeu qui t'en envoie plein la tronche, mais aussi bien physiquement dans les combats, dans les affrontements, que dans les décors, le level design, mais aussi le cachet visuel et puis la musique qui te lâche rien non plus. Enfin, il a une intensité. Je trouve qu'il a une gravité. C'est un jeu qui se prend au sérieux. Il a raison, après tout. Il est là. Tu es là dans Doom. Tu viens pour Doom. Et je trouve qu'il met tous les curseurs, tous les potards au maximum. Et quand t'aimes ça, ça le fait en fait. Il hésite pas. Il t'envoie les pires monstres, c'est gore, c'est trash. Les cacodémons qui étaient plutôt vivables dans le Doom original, ceux-là, ce sont des ils sont abominables. Ils se jettent sur toi, ils te lâchent pas. Je trouve que vraiment, comme tu dis, il y a une dynamique, il a une force. Ce jeu, il t'emmène directement.
Non mais ce qui est assez réjouissant et ça tout le long, hein, en tout cas ce que j'ai joué, et vous avez l'air de confirmer ça, c'est ce qui est toujours très très agréable, c'est quand tu perçois l'ambition des développeurs et que celle-ci est totalement cohérente avec ce que toi tu ressens. C'est-à-dire que tu sais que ce à quoi tu joues, c'est ce que les développeurs ont voulu que tu joues. Enfin, je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais en tout cas, ça se comprend.
Ouais, tu...
Il y a un truc où on sent la volonté. La volonté est là, et finalement, c'est ce jeu-là auquel on joue, et c'est encore au-dessus de du Doom 2016 en fait. Pour moi, j'ai.
C'est le truc qui m'a le plus marqué. Enfin, moi, j'ai eu une réaction de rejet, contrairement à vous. Mm-hmm. Mais ce qui est dingue avec ce jeu, c'est qu'on a l'impression quand on lance. De n'avoir jamais touché un fast FPS avant, quoi. On a vraiment l'impression que celui de 2016 est lent et...
Clair. Ah oui, clairement. Mais c'était presque une introduction, quoi.
Qui est dingue, quoi.
Ouais. Ouais, mon bémol, c'est vraiment les. Moi, j'ai vraiment galéré sur la plateforme. Alors, bon, je pense qu'il faut que j'intègre le fait qu'il y a de la plateforme dans Doom, ce qui est pas une évidence, hein, parce que autant tu vois le fait d'avoir des petits gimmicks dans une salle ou deux, d'avoir quelques trucs à sauter, je suis pas contre. Là, moi, je suis arrivé sur des passages où tu galères vraiment, tu sais, où tu dois justement jouer avec les nouveaux pouvoirs de saut en avant, etc. Tu sens qu'ils les ont mis et il faut les exploiter.
Dans les nouveaux gimmicks, moi, il y a les barres de singe, ça va. Parce que t'as des barres, tu les vois, et en fait, ça permet de sauter, et puis tu peux tirer en l'air, et c'est cool. Alors, la partie escalade, je trouve ça totalement dispensable.
Ça fait un peu la Tomb Raider, où tu repères des matières sur lesquelles tu vas mettre ton... Enfin, tu te grippes dessus. Et pareil, est-ce qu'on s'écarte pas de l'ADN de Doom? C'est la question. C'est-à-dire que Doom, là, ils l'enrichissent, ils le questionnent, ils le réévaluent. Alors moi, je suis pour, je suis ouvert. Après, voilà, tu vois, l'escalade, les sauts à double saut avec la projection en avant pour atteindre une plateforme tout en hauteur. Est-ce que c'est encore vraiment ça, Doom?
Ouais, moi j'avoue, j'aime bien. Je trouve que ça fait ça permet de ne pas juste enchaîner les arènes et les combats. Et donc, je préfère qu'il se passe ça. Je préfère faire de la plateforme plutôt que juste faire un couloir où il ne se passe rien. Par ailleurs, c'est des séquences aussi qui permettent d'amener l'exploration qu'on a bien dans le jeu. Voilà, tu parlais du level design. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment très bien foutu dedans, c'est que tout est bien gua dans le jeu. Il n'y a rien de droit, en fait.
Ouais.
Il n'y a jamais de... C'est très compliqué, en fait, visuellement de se repérer, donc c'est pour ça qu'on est obligé de tout explorer. C'est vrai que je trouve que pour le coup, les doubles sauts, les doubles dash en l'air, les trucs d'escalade, bah c'est aussi des mécaniques qui nous permettent de prendre le plaisir de l'exploration, je trouve.
Ouais, je suis d'accord.
Moi, c'est vrai que franchement, je suis dans un délire complétionniste par rapport à ce jeu, c'est-à-dire je suis dégoûté si à la fin d'un niveau j'ai raté un secret et avant même de le finir, je recommence l'émission pour les
trucs
et tout.
Tu débloques des jouets, alors tu trouves des jouets doux, mais puis tu as aussi ces fameuses salles où tu dois trouver une clé, où tu as du fight très haut niveau, en fait, pour débloquer des bonus, etc.
Et tu peux, si tu refais l'émission du début, tu peux améliorer tes armes, etc. Donc, ça te rend plus puissant pour l'émission d'après, ça te permet d'alléger le niveau de difficulté. En fait, le jeu, il est très équilibré dans le sens-là, et il est aussi très équilibré là où il est très généreux, où il compense sa difficulté augmentée. Là où il est très généreux, c'est que tu peux trouver dans les jeux des codes de triche. Et tu peux te refaire les missions, tu peux compléter les missions que tu as déjà faites avec ces codes de triche qui peuvent être vraiment genre j'ai récupéré, ce qui est pas très sorcier, un truc qui permet d'avoir une super armure, donc c'est pas que t'es invincible, mais t'es quand même très bien protégé. Tu peux te refaire des missions avec ça. Ça te permet de trouver tranquillement les secrets qui te manquaient, d'améliorer tes armes, d'améliorer ton style de jeu et tout. Enfin, vraiment, je trouve de ce point de vue-là, le jeu, il te donne aussi beaucoup de moyens de surmonter,
de rejouer,
quoi, voilà,
de revenir et finalement de te familiariser avec ces cartes, en fait, de revenir tout le temps dedans. Et elles sont, moi, elles me hantent. Hein. C'est vrai que les cartes que j'ai traversées, elles ont un côté physique, visuel, et c'est pour ça que je parle du game design. T'as raison sur les sauts, je suis d'accord avec toi, tu as vraiment cette sensation d'appréhender encore mieux le décor. Ce qui m'ennuie plus, c'est les sections où c'est que du saut. On t'oblige tu vois, et ça, bon, tu te dis, ok, alors, j'aime bien, moi aussi, je suis ravi d'avoir le double saut, etc. Mais quand on m'oblige à le faire au pixel près, c'est un peu tendu parce que est-ce que je viens à Doom pour ça? Je suis pas sûr. Maintenant, c'est. Ouais, les cartes sont tellement bien fichues que c'est vrai que tu as envie de façon d'avancer. Tu te poses pas trop la question, en fait. Hein. Ouais, clairement.
Doom Eternal, donc on en a parlé, c'était. Je pense qu'on en reparlera. On en reparlera pour les nouvelles versions et ce genre de
choses. La version Switch, hein, qui pour l'instant, la version Switch n'est pas encore datée. On verra parce que c'est toujours un défi. Et là, quand on joue à celui-là, visuellement, il envoie. Enfin, on sent qu'il est encore au-dessus du 2016. Donc, je ne sais plus quel studio bosse dessus, mais bon courage, les gars, parce que ça va être
tendu. J'imagine.
Je crois que c'était eux qui avaient été annoncés. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment. Il est impressionnant. Non, ce jeu, vraiment, on peut devant.
Là, pour le coup, je vous ai dit, même si moi j'ai pas pu faire des séances très longues, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention et ça génère un peu d'adrénaline quand même au niveau du jeu, c'est très, très, très impressionnant et c'est vraiment un degré de maîtrise dans le FPS qui a rarement été vu. On va finir cette émission parce que c'est notre première émission depuis le confinement, depuis qu'on reste chez nous. On va finir si vous aviez quelques conseils un peu rapidement hein, pour en termes de jeux, alors c'est pas forcément des jeux récents, Mais quel jeu anime votre période de confinement? On va commencer par toi, Marius, si tu veux bien. Quel jeu est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de jouer en ce moment?
Très bêtement, commencer par un classique, mais si vous êtes plusieurs, y a toujours Overcooked qui fonctionne extrêmement bien et qui provoque... Enfin, qui est aussi amusant qu'énervant et provoque des engueulades, mais gentil. Ça marche vraiment extrêmement. Après, moi, dans mes petits délires perso, je conseillerais Elite Dangerous, qui permet de s'investir de nombreuses heures, ne serait-ce qu'apprendre à jouer à Elite Dangerous, c'est toujours un peu laborieux. Donc là, je pense qu'on a le temps et ça permet un bon dépaysement. Et surtout, ça autorise beaucoup de types de jeux différents. Y a toute une partie combat que moi j'ai complètement zappé dans le jeu. Et au début, j'avais commencé en faisant plutôt c'est un jeu en ligne qui n'est pas massivement multijoueur parce que je crois qu'on est capé à une trentaine de personnes sur les serveurs, mais qui permet de faire plein de trucs différents et on peut miner des astéroïdes, des trucs comme ça, ou faire de l'exploration. Moi, ça faisait des mois que je m'étais lancé dans un voyage exploratoire vers le centre de la galaxie et évidemment 10 jours avant le confinement j'ai pété mon vaisseau comme un con écrasant sur une planète sur laquelle je m'étais posé juste pour m'amuser et je me suis écrasé comme une bouse, donc voilà, j'ai des heures et des heures de voyage perdu pour rien. Mais c'est aussi ça le plaisir du jeu, c'est de se fixer des objectifs qui servent à rien. Et alors je le conseillerais, et enfin moi j'ai très envie d'y rejouer, c'est Persona 5,
oui,
que j'ai pas eu le temps de finir jusque là, et il y a le Royal qui sort en ce moment, et voilà, ma semaine prochaine c'est relancer ça, réapprendre à jouer et enfin le finir.
Et tu recommences au début ou à ta dernière sauvegarde?
Bah, c'est un peu la question que je me pose, parce que je pense que j'étais au milieu d'un donjon assez avancé, peut-être que je vais recommencer une partie dès le début et avant de reprendre ma save pour le finir.
Ouais.
Parce que c'est long hein, quand même. Je dois avoir 40 ou 50 heures dessus.
Ah oui, oui.
J'ai pas envie de tout perdre non plus.
Ouais, je comprends. Franz.
Ouais, ben moi personnellement, alors c'est vrai que pour moi c'est plutôt l'occasion effectivement de ressortir des vieux jeux. Alors déjà pour l'activité physique. Et convivial à la maison, je trouve que il y a rien de tel que de ressortir un bon vieux Wii Sport là. Voilà, franchement, c'est quand même toujours sympa. Sinon, effectivement, des Overcooked, etc. Si on est confiné à plusieurs, c'est très bien aussi. Hein. Ça, c'est pour le côté un peu ouais activité physique, on va dire Wii Sport. Sinon, effectivement, je pense que c'est une période où on a bien envie de grands jeux en monde ouvert. En tout cas, ça semblerait normal. Moi, dans ce cas, celui qui me vient évidemment le premier à l'esprit, c'est le Zelda Breath of the Wild. Je pense que si vous ne l'avez pas fait, je pense que le moment est vraiment bien choisi. Moi, je souhaiterais presque ne jamais l'avoir fait pour le redécouvrir maintenant. Mais vraiment, là, se plonger dans ce jeu aujourd'hui, je pense que ça ne peut être que super.
Ouais.
Et alors après, j'ai plutôt essayé de réfléchir en catégorie, hein, donc activité physique, monde ouvert. La troisième catégorie à laquelle je voulais réfléchir, c'était des jeux plus introspectifs. Qui amène à une sorte d'état de zen, j'en sais rien, je sais pas si le mot est bien choisi. J'ai pensé à The Witness. Après c'est un jeu qui m'avait procuré un sentiment de solitude un peu angoissant à un moment aussi, donc en fait je sais pas si c'est forcément...
Oula, attention bon alors.
Je pense que c'est un jeu qui peut, je pense qu'il est à double tranchant, quoi. Voilà, faut essayer. Je pense que ça peut être un bon moment pour aller justement explorer l'île de The Witness, se plonger dans les puzzles, dans la mécanique de jeu qui est quand même vraiment extraordinaire. Après, c'est un jeu où on peut finir par se sentir seul, donc si on est déjà seul chez soi, bon, voilà. Sinon, par ailleurs, je rappelle que mon jeu de 2019, Sekiro, c'est un jeu qui au bout de 40 heures.
Non mais sérieux, c'est le jeu que je ne lancerai jamais en confinement.
Là, justement, c'est le jeu. Il faut du temps, il faut de l'investissement pour finir par. Moi, je pense que ça peut être un bon moment pour le faire. Moi, je suis dans ma quatrième partie là, et je trouve que c'est chaud. C'est toujours
impressionnant.
Oui, et paradoxalement apaisant d'y jouer là. Donc voilà. Mais,
ah oui, quand tu en as à ta quatrième partie, je pense que ça peut commencer à devenir apaisant. Ouais, moi, je suis pas encore rendu là.
Ouais. Non, mais enfin, en tout cas, je pense que ça vaut le coup de. Je pense que c'est une bonne période aussi pour essayer de se plonger dans ce genre de jeu. Ouais.
Ouais. Voilà.
Sinon, je repicore dans ma vieille console. J'ai ressorti, du coup, comme j'ai ressorti la Wii U, j'ai relancé Zelda Wind Waker, des choses comme ça.
Ah oui.
C'est sympa de. En profiter pour ressortir des vieux trucs. On sait parfois plus jouer, mais c'est pas grave.
Mais c'est vrai qu'à plusieurs, Baba Is You, c'est peut-être une bonne solution.
Ouais.
Dans le genre casse-tête et se mettre à plusieurs. Les gens ont fait tous les jours 5 niveaux de Baba Is You et on avance.
Ah oui, mais ça, 5 niveaux, à certains moments, t'es peut-être un peu optimiste, non? Parce que je pense que tu pourrais rester 2 heures sur 1.
Plusieurs, il y a
moyen. Ah oui, voilà.
En discutant comme un jeu de société.
Ah oui, pas bête, pas bête. Patrick.
Oui, alors moi je vous aurais bien parlé de Death Stranding, mais en fait, vu que c'est la réalité d'aujourd'hui, je sais pas si vous êtes sorti. Non, mais c'est dingue, il était assez visionnaire, en fait, Kojima, quand on y pense, hein, quand on fait une partie de Death Stranding. Non, je vais pas vous conseiller ce jeu, mais c'est troublant de relancer aujourd'hui, je trouve. Non, moi, un de mes jeux du moment qui m'ont aidé à relancer une console à m'y remettre, ça a été Deadly Premonition de Swery, que je viens de recevoir. C'est le dernier jeu que j'ai reçu dans mes commandes avant de tout annuler parce que je voulais plus avoir de colis, etc. J'ai reçu Deadly Premonition sur Switch, que j'avais commandé en version collector, qui est ressorti, et je le refais. Alors, c'est la troisième fois que je le refais, parce que je l'avais fait sur Xbox 360, sur PS3, je ne suis pas monomaniaque, mais ce jeu, il est incroyable. Alors, c'est paradoxal pour moi, parce que c'est un jeu d'horreur, hein, un peu mal fichu, un peu série Z, avec très peu de moyens, qui était déjà un peu has-been au niveau technologique lorsqu'il est sorti il y a quelques années, mais je le trouve fascinant, parce que c'est une enquête en monde ouvert, justement, on revient sur l'idée du monde ouvert, on explore une ville à la Twin Peaks, avec ce cachet Swery, c'est que c'est un jeu bizarre, c'est un jeu étrange, avec des personnages vraiment, vraiment étonnants. Et puis, moi, je l'adore. Ce qu'il est truffé de défauts, il est assez laid hein, sur Switch. Il est complètement aliasé. C'en est vraiment fascinant. Mais il a un truc, ce jeu. Je trouve qu'il a il a un ton très particulier. C'est un vrai jeu d'auteur. On sent que vraiment, Swery cite... C'est un Japonais qui cite toute sa fascination pour la culture américaine. David Lynch, les séries télé, c'est truffé de clins d'œil. J'en ai déjà parlé de ce jeu il y a quelques temps, lorsque j'avais évoqué, je crois, la version 360 dans l'émission. Mais je le refais sur Switch et je l'adore, malgré tous ses défauts. C'est un jeu de cœur et ça me fait plaisir de m'y relancer aujourd'hui. Je le recommande si vous pouvez le faire. C'est vraiment... Puis surtout, j'attends la suite, parce que Swery a annoncé Deadly Premonition 2, normalement cette année. Mais bon, ça, c'était avant les événements. Donc, je sais pas quand il arrivera, mais il arrivera. Donc, moi, le fait qu'il y ait une suite à ce jeu-là, je trouve ça génial. Donc là, je suis ravi de refaire le premier. Donc, cette enquête dans une petite ville américaine. Moi, j'ai envie de citer, allez, je triche, je mets Dreams et Mario Maker 2 dans le même cas, c'est que ce sont ces jeux, voire même Far Cry 5, qui a aussi un éditeur de niveau. Pour moi, ce sont des jeux qui sont ouverts sur le monde. C'est-à-dire que, en ayant la capacité d'aller piocher dans les créations d'autres joueurs, tu visites les créations de gens, tu visites des courts-métrages parfois dans Dreams, tu rencontres d'autres personnes sans les rencontrer, et je trouve que c'est fascinant. Et en ce moment, ces jeux-là, je trouve qu'ils sont encore plus importants et encore plus fascinants, parce que voilà, c'est une porte ouverte sur le monde, on s'ennuie pas, il y a toujours du nouveau, des nouvelles choses à aller picorer, à aller découvrir. Donc c'est très très bien, et quand on peut le faire, moi j'en suis incapable, mais quand on peut créer en plus des mondes, on accueille des gens dans son univers, par internet interposé, je trouve que c'est très très bien. Et puis je conclue avec un troisième titre que j'ai relancé vraiment pour de la recherche, parce que j'écris dessus, donc j'ai relancé Les Chevaliers de Baphomet, le point and click de 95 de Révolution Software. Alors le studio vient tout juste de fêter ses 30 ans, hein, le studio de Charles Cécile qui s'est lancé donc en 90. C'est un jeu, j'étais halluciné en relançant là, je l'ai relancé il y a quelques jours pour écrire dessus, donc j'ai refait une partie, etc. Et je trouve qu'il a pas pris une ride. Et je me dis, un jeu comme ça, c'est vrai qu'en 95, c'était un peu un state of the art du point and click. Il arrivait à un moment où ce genre-là était encore une locomotive. Et je me dis, il montre la capacité de certains genres, à transcender les évolutions de technologie, les révolutions de narration. Et non, un jeu comme ça, les dessins sont magnifiques, les décors sont superbes, les personnages sont là, et en fait ça n'a pas pris une ride. Et d'ailleurs j'ai découvert que sur les versions Steam ou GOG, tu as donc la version Director's Cut de 2011, mais tu as aussi la possibilité de relancer la version d'origine, donc sans les scènes en plus, etc. Et tu te dis, mais le jeu n'a quasiment pas vieilli. Et puis ça se charge en plus d'une nostalgie presque personnelle quand tu découvres le début du jeu avec Stobart qui est sur un café manger à une terrasse, le Paris un peu carte postale du jeu. Voilà, aujourd'hui, tu vois ça d'un œil très particulier, je trouve, dans les circonstances actuelles, et ça le rend d'autant plus d'autant plus touchant à lancer aujourd'hui, parce que voilà, c'est la survivance d'un genre, d'un jeu, d'une création qui a quelques années maintenant. Et puis, bah, c'est une note d'espoir. Enfin, j'ai hâte de me remettre à une terrasse de café aussi. Donc, je le fais dans, dans le début des Chevaliers de Baphomet. Mais vraiment, les personnages, tu les oublies pas, ils sont toujours là. Et voilà, le jeu est vraiment fascinant, je trouve.
Alors ouais. Moi aussi, pour ma sélection, que je la retrouve, bah oui, alors un peu comme Franz sur la partie sportive, je reconseille quand même, parce que c'est un jeu qu'on lance ici chez moi, c'est Just Dance 2020. Just Dance 2020 et avec l'abonnement, alors je sais que c'est un peu bizarre parce que je commande un jeu et avec l'abonnement, mais Just Dance Unlimited. J'ai repris les prix, moi j'ai pris un abonnement d'un an, hein, c'est 25€, autrement c'est 10€ pour 3 mois. Et vous pouvez vous abonner à Just Dance Unlimited avec les précédentes versions. Vous n'êtes pas obligé de prendre Just Dance 2020. Si vous avez Dance 2018, par exemple, vous pouvez vous abonner à Just Dance Unlimited avec votre Just Dance 2018. C'est juste pour dire que c'est exceptionnel, hein, que c'est vraiment des jeux. Il y a 500 chansons quand même en termes d'offres, avec à chaque fois des chorégraphies, avec même des fois différents niveaux de difficulté. Pour faire du sport. Alors moi j'y joue avec, j'ai l'impression que c'est quand même la meilleure version avec le Kinect sur Xbox. Et c'est vrai que pour jouer en famille ou ce genre de choses, c'est vraiment super. Et pour le coup, pour l'aspect un peu exercice, c'est aussi pas mal. Sinon, dans les jeux, alors là pour le coup, rien à voir, j'ai relancé Slay the Spire, hein, parce que quand même, après pratiquement un an. De quoi ?
Après un millier d'heures passées dessus.
Ouais, mais après. Et après une pause de plusieurs mois quand même, et en fait j'avais pas joué au quatrième personnage, la gardienne, que j'avais qui est arrivée entre temps avec des nouvelles cartes, une nouvelle façon de changer d'état en fait, où elle passe en mode calme ou en mode un peu berserk, et c'est vraiment super intéressant. Donc pour le coup ça a été une belle surprise, et c'est il y a ce côté un peu qui est presque rassurant dans Slay the Spire, avec ce côté un peu répétitif, mais en même temps un défi différent à chaque fois. Et il y a ce mode qui est un peu moins vorace que les autres en termes de temps, qui est le défi quotidien. Un défi quotidien, c'est un certain set de cartes avec des spécificités, et ça change tous les jours. Il y a un classement mondial, on voit qu'il y a quand même plusieurs milliers de joueurs qui continuent à jouer à Slay the Spire, et c'est un défi par jour. Et donc voilà, ça, on a sa petite partie quotidienne de Slay the Spire, et c'est vraiment super. Et alors le dernier, c'est pas vraiment un conseil parce que j'y ai pas joué, mais un peu dans ce besoin d'open world qu'on ressent peut-être plus en ce moment, j'ai vraiment très très envie de me remettre et de recommencer à zéro Assassin's Creed Odyssey, que j'avais juste effleuré à l'époque, et voilà, toi c'est Zelda Breath of the Wild France, et je comprends évidemment, mais là pour le coup je sais que j'en ai un qui est vraiment pas mal et que j'ai à peine exploré, donc j'ai envie de profiter un peu de...
Pour l'avoir fini la semaine dernière, ça tient quand même une bonne pour en voir le bout.
D'accord.
C'est massif, quoi.
Ouais. Et bah du coup c'est peut-être une bonne occasion. On en a encore semble-t-il pour quelques semaines. Voilà donc on a fait peut-être une longue émission. J'espère qu'elle a été potable à écouter pour la plupart d'entre vous. J'espère. Faites-nous des retours sur les réseaux sociaux, sur le forum officiel de Science On Joue. On essaiera peut-être d'améliorer les points si on peut l'améliorer, parce que c'est vrai que dans ces conditions on peut pas avoir de nouveau matériel, donc on fait un peu comme on peut. Je pense qu'on se retrouvera sans doute la semaine prochaine s'il y a des jeux dont on a dont il faut parler, et on termine avec la question rituelle, parce que même confiné vous n'allez pas y échapper, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi, Marius?
Je travaille pour le journal, et puis pour le magazine qu'on a par ailleurs, dont il faut revoir tout le principe en confinement, puisque nous d'habitude on fonctionne avec des interviews qu'on fait au Japon, et là c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Pas mal de réunions d'urgence et de nouveaux logiciels téléchargés pour parler à plusieurs et compagnie. Et puis je regarde des films d'horreur, parce que j'arrive pas à jouer à des jeux d'horreur, mais je regarde des films d'horreur. Donc dans le désordre, j'ai regardé. Non, si, que je peux recommander, c'est The Hunt, qui est écrit et Carlton Hughes, qui sont le duo de Lost. Et le truc est plutôt marrant, c'est une chasse à l'homme. C'est des riches démocrates qui organisent une chasse aux pauvres façon Hunger Games, avec un petit twist mignon à la fin, bien trouvé. C'est à la fois, c'est défoulatoire comme il faut en ce moment.
Cool. Patrick ?
Moi, je suis tombé sur à la télévision sur Tutsi, que j'avais pas vu depuis des années et que j'ai trouvé, que j'ai redécouvert et que je trouve exceptionnel. Un film de 82 de Sidney Pollack avec un Dustin Hoffman hallucinant. Donc, il lui joue un acteur loser. Sa carrière ne fonctionne pas. Donc, il va se déguiser en femme pour obtenir un rôle dans un soap opéra pacotille. Et c'est incroyable. J'étais vraiment bluffé en voyant le film qui est quand même donc de 82, la modernité du film, le message, le ton. Je trouve que c'est vraiment, vraiment admirable. La bande originale, très, très années 80, évidemment. Et puis un Bill Murray, un rôle secondaire de Bill Murray, mais qui est fidèle à lui-même, qui a quasiment son rôle de Peter Venkman, enfin, vraiment le même ton. Et c'est vraiment, j'ai vraiment redécouvert Tutsi, et vraiment, je le recommande, si vous pouvez le voir. Enfin, c'est vraiment impressionnant par sa modernité, encore une fois. Impressionnant.
Franz ?
Moi, je suis un peu comme Marius, ça. Je me fais des séances ciné du soir, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trop l'occasion de faire en temps normal. Donc là, je rattrape un peu quelques trucs. Hier soir, j'ai regardé Total Recall, que j'avais jamais vu, qui est vraiment un film super, extrêmement impressionnant. Voilà, sinon, je prends un peu ce qui me passe sous la main. L'autre jour, j'ai regardé le premier Indiana Jones, que j'avais pas vu depuis très très longtemps, et je l'ai trouvé assez faible.
Oula !
Oh ! Et je vous laisse là-dessus.
Oula, tu peux pas t'en aller après ça, tu peux pas dire ça et t'en aller. Comment as-tu dit?
Mais il m'a un peu déçu. Franchement, il m'a un peu déçu. J'ai trouvé. Alors autant c'est des licences que je peux accepter, que je peux comprendre dans des Tintins, des trucs comme ça. Mais le mec fout le bordel dans le caire. Il n'y a personne pour lui pour l'arrêter. Enfin, je sais pas. J'ai eu des problèmes de crédulité devant le film, en fait. J'ai eu un blocage. Voilà.
Bon,
trop loin.
C'est peut-être moi qui ai un problème.
Hein. Oh là là, tu fous le bordel pour finir l'émission, c'est incroyable.
J'ai oublié de le dire, mais pour reprendre ce qu'avait conseillé Patrick, L'Homme Invisible, récent et formidable. Enfin, vraiment, c'est un très bon film. Et... Non, mais le mettre sur ses petites tablettes, et puis ça vaut vraiment le coup. Quoi.
Ouais, il est bien, il est intéressant. Ouais.
Je regrette de ne pas avoir pu le voir du coup à cause du confinement.
Et pour ma part, non, mais c'est même pas, quand je joue pas, mais c'est juste pour signaler que j'ai commencé à lire le premier Harry Potter avec mon fils et je suis très content parce que on passe en mode histoire du soir avec le premier tome d'Harry Potter et c'est quand même.
Donc c'est un audiobook que tu fais toi-même en fait, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je pourrais m'enregistrer.
Il s'appelle un père.
C'est ça. Et du coup, voilà, c'est un peu genre de moment assez marrant. Voilà.
Et il aime bien, alors. Du coup, il aime bien.
Ça part pas mal. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques.
Ouais, il n'y a pas de risques.
Il a vu les films ou pas?
Non, il n'a pas vu les films.
Après, du coup. Ce sera après, éventuellement.
Ah oui, ce sera après. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Là, il y a un petit suspense parce que malgré les conseils, les très bons conseils de Patrick Béja, j'ai lancé l'enregistrement. J'espère que tout s'est bien passé, hein, parce qu'on a un mauvais souvenir de la 200e, donc ça, on va dire que ça ne se reproduira pas. En tout cas, si vous écoutez ces derniers mots, ça veut dire que ça s'est bien passé, et donc c'est une bonne chose. Merci à tous. Merci à Camille de nous avoir accompagnés en début d'émission pour parler d'Animal Crossing. Et puis, en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous, essayez de vivre le mieux possible cette période très compliquée, très chelou, très bizarre, qui ressemble un peu à rien, et comme j'ai dit en début, qui a un gameplay un peu tout pourri, mais on va faire avec. En tout cas, nous, on se retrouve ici même la semaine prochaine sur les internets et sur libération.fr. Ciao. Eh, sérieux, c'est enregistré, je vais le garder.